Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Encore un mauvais bulletin de notes, du genre qu'on hésite à faire signer aux parents. En mathématiques, les élèves français font partie des derniers de la classe dans l'Union européenne et l'OCDE. La dernière enquête Teams menée sur des élèves de CM1 et de 4e est sans appel. Sur les bancs de l'école, tout le monde n'a pas la bosse des maths.
J'ai du mal en fait à compter dans ma tête, à poser et tout.
Et après on écrit ici, 6 plus 6.
Selon l'étude, les inégalités sociales, mais aussi les inégalités entre filles et garçons, s'avèrent de plus en plus marquées.
Le score des garçons augmente de 5 points et celui des filles régresse de 5 points. Et d'ailleurs, la France est en 2023 le pays où on observe le plus grand écart entre garçons et filles en maths parmi les pays de la zone de l'Union européenne.
Pour autant, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale assurait ces dernières semaines que le décrochage des Français en maths n'est pas une fatalité.
Je veux qu'on fasse tomber ce mythe qui dit qu'en France, il y a des bons en maths et des mauvais en maths. Nous sommes aussi une nation de mathématiques. N'oublions pas que nous avons des médailles Fields.
Une dizaine de Français a effectivement décroché cette médaille qui équivaut à un prix Nobel de mathématiques. L'un d'eux, Cédric Villani, a même participé au plan maths lancé en 2018 pour améliorer le niveau des élèves et la formation de leurs professeurs.
Ce qui sauvera l'enseignement mathématiques en France, ce n'est pas le fait de tout changer, ce n'est pas le fait d'utiliser des outils nouveaux, c'est le fait de travailler sur les fondamentaux et le fait de le faire bien.
Alors pourquoi, malgré les réformes, restons-nous si nuls en maths ? Faut-il dépoussiérer la façon d'enseigner ? Peut-on réussir sa vie sans les mathématiques ?
Trois spécialistes, trois têtes avec nous. Antoine Carrier, alias Arieka, car vous êtes professeur de mathématiques de collège à Blanquefort en Gironde. Vous utilisez aussi les codes du rap pour intéresser vos élèves. Votre livre Rapématique, génial titre, est paru chez Larousse. Et selon vous, Antoine Carrier, on manque cruellement de profs de maths en France. Dans votre collège, vous dites, il n'y a pas eu pendant 2 mois dans 4 classes de 4e. Ça crée des lacunes évidemment pour les élèves qui ne pourront pas être comblées. À côté de vous, Monique Anéagoy, bonsoir madame, docteur en didactique des mathématiques. Vous avez été membre de la commission Villani-Torossian, sur l'enseignement des mathématiques. Votre livre « L'approche de Singapour » vient de paraître chez Hachette. Et selon vous, quand on dit à quelqu'un qu'il est nul en maths, eh bien c'est une étiquette, une sorte d'assignation qu'il va s'approprier et qui devient réalité. C'est vrai pour les filles et les mentalités doivent changer. Et enfin, Étienne Gis, bonsoir, mathématicien éminent, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et vous avez reçu la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. Dernier ouvrage, La théorie du chaos, c'est ça, hein, au CNRS, ça. Édition du CNRS. Selon vous, il n'y a pas de recette miracle pour enseigner les mathématiques. Ce qui est important, c'est de lier les maths et les sciences, et surtout de décomplexer tout le monde sur ce sujet. Donc vous allez essayer de le faire ce soir, et on démarre avec... Ben un chiffre,
même
évidemment.
Des chiffres, du
des chiffres et des nombres.
Oui, et le compte n'est pas bon, hein. C'est le bonnet d'âne pour la France. Selon le classement Teams, donc vous le disiez, en maths, les élèves de CM1 pointent à la 22e place sur les 22 pays de l'Union européenne qui ont été évalués. Bon dernier, donc, en classe de 4e. Seul le Portugal fait moins bien que nous. Pour savoir ce qui est demandé dans cette évaluation, voici un exemple. Évaluation en CM2. Oui. Combien y a-t-il de quarts d'heure ? Dans 3 quarts d'heure, seule la moitié des élèves de CM2 de 10 ans, donc à peu près, donnent la bonne réponse qui est, Étienne Gis ?
4.
Oh, vous êtes taquin, vous.
Donc, combien bah non, de quarts d'heure dans...
Pour ceux qui nous regardent, les gamins, c'est 3.
Ouais, 3, voilà.
C'est
alors,
3.
Mais alors, ça on 3 dit... Non, mais quand même, quand on a vu ce chiffre-là, on s'est dit quand même...
On hallucinait.
Alors peut-être qu'on aurait fait la même erreur, peut-être pas. On est intimidé quand on a une évaluation comme
on
ça.
On s'est dit, il y a un piège.
On n'est pas bon.
Tout dépend de la manière dont on pose la question, dans quel contexte. Ouais. Si l'élève se sent sous pression parce qu'on attend une réponse de sa part et il dit il y a un piège, bien sûr qu'il sait que 3 quarts d'heure, il y a 3 quarts d'heure, mais peut-être qu'il pense qu'on est en train de le rouler.
C'est ça.
Ah, vous pensez que c'est... vous diriez la même chose aussi ?
Je peux parler des fractions et du concept de fraction. Les pauvres Français, c'est un des seuls pays où on enseigne les fractions à partir de CM1. À l'international, la moyenne est CE1 ou CE2. Donc pendant 2 ans au cycle 2, ils ont le temps de s'approprier qu'est-ce que c'est une fraction ? Une fraction de quoi ? Une fraction de l'heure et une fraction d'une tarte, c'est très différent.
Je précise, vous êtes franco-américaine.
Oui, franco-américaine. D'accord ? Donc maintenant, si, d'après les nouveaux programmes, on commence au cycle 2, avant CM1, on aura 2 ans. Et ils auront toutes les représentations et les manipulations pour arriver à l'abstraction.
Allez, donc on allait trop vite, en
fait. Bien oui, c'est le seul pays.
On allait trop vite dans les enseignements.
Ah oui.
Plus on enseigne les fractions tôt, mieux on saura. Mais plus on enseigne les fractions tôt, et moins on aura du temps pour le reste aussi. Quoi. Mm-hmm.
Mais ils sont valables, ces indicateurs, pour vous ou pas? En tant que prof, vous les avez? Vous les voyez, ces évaluations, peut-être?
Vous enseignez
peut-être
en collège.
Oui. Est-ce que vous les avez vues? Est-ce que vous dites, bon, eh ben, elles sont des indicateurs fiables et qui sont adaptés aussi à nos élèves?
Alors, on en parlait tout à l'heure en coulisses. En fait, il y a plein de choses qui sont évaluées dans... Donc il y a des choses où on est moins bon et des choses où on est meilleur, en fait.
Et comme tout, quand on veut évaluer quelque chose, il y a beaucoup d'aspects. Le résumé par un seul chiffre est une trahison, toujours.
Non, bien sûr, mais enfin, c'est tous les 5 ans ce classement et on se rend compte qu'il y a quand même des constantes.
Il y a des constantes.
Avec ce niveau des élèves français, alors qu'il y a des génies. Enfin, il y a plein de médailles Fields, il y a des très très grands mathématiciens.
Attention, ne confondons pas le rôle de l'école primaire, qui est de former des citoyens, et un autre rôle de former des grands scientifiques. Ce sont des choses qui n'ont à peu près rien à voir. Pour former des prix Nobel ou des médailles Fields, c'est des autres outils. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des enfants qui sont adaptés au pays dans lequel on vit.
Mm-hmm. Oui, mais Monica Néagoy, est-ce qu'on n'a pas tendance en France aussi à dire que quand on est mauvais, ben, c'est pas... Nous qui sommes mauvais, c'est les outils d'évaluation qui sont mauvais. Est-ce qu'on ne trouve pas toujours un prétexte pour expliquer qu'on n'est pas bon?
On a fait ça pendant longtemps, mais au temps de Blanquer, on a dit stop.
Jean-Michel Blanquer,
Jean-Michel Blanquer, on a dit stop, il faut arrêter de critiquer les tests. Et si tous nos voisins arrivent, nous, on peut arriver aussi. Donc, oui, on est le genre, mais je croyais que vous alliez poser une autre question. Est-ce qu'on est le
genre
de dire que j'ai la bosse des maths ou je n'ai pas la bosse des maths? Ça, c'est un grand problème. Dans l'Occident, parce que c'est en Amérique pareil, on pense qu'on est né avec la capacité. Et le mot bosse des maths, c'est maintenant figuré, mais ça vient d'un médecin allemand qui croyait vraiment à la... au crâne.
À une configuration crânienne.
Et il avait identifié la bosse des maths et on croyait qu'à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ça a été déboulonné, ce mythe.
Ça n'existe pas.
Les mathématiciens et les enfants, et les filles et les garçons, et les noirs et les blancs.
Alors justement, les filles et les garçons, Antoine Carrier, vous avez des filles et des garçons dans les classes du collège dans lequel vous enseignez. Est-ce qu'il y a quelque chose de genré? Est-ce que les filles se sentent moins sûres d'elles, se sentent moins en capacité de s'approprier les mathématiques pour des raisons à cause de leur genre? Est-ce que vous l'avez remarqué?
De manière générale, on peut le constater, oui. Après, c'est pas, y a rien qui montre une corrélation entre le fait qu'une fille ne peut moins réussir en maths. Et je pense qu'à force de leur répéter, vous pouvez moins réussir en maths, elles réussissent moins. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'incompétence acquise. Mm-hmm. Et c'est un peu ce qu'on dit aussi, quand on dit les élèves français en général sont nuls en maths, ils vont s'auto-persuader un petit peu.
Ça va les renforcer dans ce sentiment d'être incompétents.
Vous connaissez l'exemple bien connu, on montre à des enfants un dessin un peu compliqué, et on leur demande de recopier ce dessin. Et on le demande d'une part en disant c'est un exercice de géométrie, ou c'est un exercice de dessin. Voilà. Et de manière stupéfiante, les filles réussissent superbement lorsqu'il s'agit d'un exercice de dessin, et les garçons réussissent quand c'est un exercice de géométrie. Parce qu'on projette sur nos enfants une image que...
Au garçon la science, et aux filles la créativité. Voilà. C'est
exactement.
Ça. Le niveau des profs, c'est un problème? Ils sont mauvais, les profs de maths?
Non, moi, je ne dirais pas ça.
Je m'adresse à un prof.
Je ne dirais pas que au niveau du recrutement des profs, ça devient compliqué parce qu'on sait qu'il manque de professeurs et qu'on les recrute un petit peu sur le tas. Certains professeurs ne sont pas formés quand ils arrivent en poste et ils se forment sur le tas. Peut-être ça peut... Mais le niveau des professeurs, je le pense pas mauvais.
Quelle a été votre formation à vous?
Formation classique, j'ai eu un CAPES de maths.
C'est quoi? C'est combien d'années la formation pour être...
Maintenant, c'est Bac plus 5.
Bac plus 5.
Oui, mais je pense qu'il faut dire une chose importante, c'est que les profs, d'abord, il faut mieux les payer. La première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, il faut les respecter. Mm-hmm. Il faut leur faire confiance. Mm-hmm. Et depuis quelques années, on a eu tellement de ministères et tellement de réformes et d'injonctions pour les professeurs. Nous devons respecter leur travail et leur faire confiance.
Mais on a baissé le niveau de recrutement aussi, non? Justement parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. C'est une réalité, même si vous ne pouvez peut-être pas forcément le dire parce que vous faites partie, et c'est normal, de cette corporation de profs, Monica.
Les pays qui ont vu leur score augmenter, c'est des pays qui ont mis leurs efforts, disons en mathématiques, et qui ont mis l'argent. On ne va pas dire on respecte et on valorise nos professeurs si ce n'est pas reflété par le salaire. Et si le salaire est bas, on va perdre les profs performants en sciences et en maths dans d'autres domaines. Mais je veux dire, parce que je suis sur le plateau et c'est très important, je suis là depuis des années, enfin on va dire 8 ans, oui. J'ai fait des formations partout et les professeurs sont curieux d'apprentissage et désirent de découverte. Ils veulent des formations de qualité. Et nous avons commencé des efforts, mais il y a beaucoup à faire. Mais les profs ne sont pas fainéants. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants.
Alors, on va évoquer quelque chose que vous connaissez bien. Oui. La méthode de Singapour. Et on va l'évoquer avec vous, Anna. On ne sait pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que la méthode de Singapour qui semble salutaire ou pas, d'ailleurs, oui, pour l'enseignement des maths?
Tout à fait. C'est une méthode qui est entrée en vigueur en France à la rentrée 2024. Et comme son nom l'indique, elle vient de Singapour. Et en fait, il s'agit d'un mélange de plusieurs techniques d'enseignement qui ont été un petit peu glanées partout dans le monde. Alors, concrètement, il y a 3 étapes de réflexion. Le concret, l'imagé et l'abstrait. Alors, on va essayer d'être concret. C'est par exemple, littéralement, toucher les mathématiques avec des objets. Donc, par exemple, là, j'ai 5 toupies. Mon camarade Benjamin m'en donne 2. Et donc, ça me fait 7 toupies au total. Ensuite, on va passer des objets aux images sur papier. C'est exactement ce que vous faites dans ce manuel que vous avez supervisé, Monica Neagoy. On va voir les images ici. Donc, on retrouve les petites voitures ou les petites toupies éventuellement. Ouais. Et enfin, seulement quand les élèves sont familiarisés avec toutes ces notions, là, on passe à l'abstrait uniquement avec des chiffres. Et on va le voir également sur l'écran. Alors ça marche pour l'arithmétique, mais c'est censé fonctionner pour la géométrie, les fractions, enfin tout un tas de choses. Et aujourd'hui, 70 pays, dont la France, utilisent cette méthode, mais chacun la remanie un petit peu à sa sauce. En tout cas, en France, certains professeurs estiment qu'elle permet de mieux capter l'attention de certains élèves, car elle est beaucoup plus ludique. Mais d'autres pointent du doigt le manque de formation, on en parlait juste avant, des professeurs à cette méthode. À Singapour, par exemple, ils ont 400 heures de formation, et en France, c'est seulement 80 heures. Voilà. Alors, Étienne Gisse, est-ce que cette méthode, c'est le miracle qui va nous permettre de remonter dans le classement?
D'abord, je ne crois pas au miracle, mais d'une certaine manière, cette méthode, c'est en gros celle que j'avais quand j'étais moi à l'école primaire, donc il n'y a pas de révolution de ce côté-là. Mais vous avez pointé du doigt la grande difficulté, c'est la formation professionnelle initiale et continue qui, en France, est dans une situation catastrophique.
Voilà. Vous croyez au miracle, vous?
C'est-à-dire, quand on a vu Cédric Villani parler au ministre Blanquer, Jean-Michel Blanquer, il a dit... La seule chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est qu'on n'a pas fait justice à nos professeurs en leur donnant pas assez de formation, ni de qualité, ni de quantité. Mais j'aimerais corriger, préciser. Donc, elle ne vient pas de là-bas. Ils ont, pendant 15 ans, vous voyez le temps qu'ils ont mis, 15 ans, construit ce programme. À partir des années 80, jusqu'alors, ils importaient des livres. Mais ils n'ont pas tout réinventé. Ils ont regardé les pédagogies qui marchent. D'accord. Et là, comme a dit Étienne, mon voisin, c'est des philosophies, des pratiques pédagogiques de la France, de la Suisse, de l'Amérique.
Et le concret, c'est aussi un état d'esprit
derrière.
C'est-à-dire faire confiance à l'enfant et se dire que tout est possible.
Juste une question, vous venez de dire, c'est une méthode que j'avais quand j'étais jeune. Alors je ne comprends pas, on a laissé tomber une méthode qui marchait pour en prendre d'autres qui n'ont pas marché pendant des années?
On n'a pas le temps de faire une histoire de la pédagogie des mathématiques en France, mais il y a eu quelques catastrophes qui sont passées. Peut-être que vous vous souvenez du mot mathématiques modernes.
On va en parler tout à l'heure des mathématiques
modernes. Donc on a une période où on s'est perdu.
Il y a eu une époque
en fait.
Où je crois qu'on peut dire que c'était une erreur. Il y a eu une erreur grave qui a été commise.
Ça a été bon pour les mathématiques, mais catastrophique pour la pédagogie.
Antoine Carrier.
Oui, on ne peut pas monopoliser. Allez-y.
Votre méthode, à vous, c'est quoi?
Alors moi, déjà, la méthode de Singapour.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que... les professeurs l'utilisent forcément tous plus ou moins.
Sans le savoir, vous voulez dire?
Oui, alors peut-être sans l'étiqueter méthode de Singapour, mais il y a forcément de la modélisation, il y a forcément des images qu'on utilise justement pour donner du sens aux maths, quoi, en fait.
D'accord.
Donc, sans l'étiqueter méthode de Singapour, je pense qu'on pourrait peut-être aller plus loin sur certains principes.
Mais vous les faites râper, on va voir quand même. Donc, vous les faites râper, vous
voilà.
On va voir ce que ça donne.
C'est pas la méthode Singapour.
On va voir ce que ça donne.
C'est la méthode Carrier.
pratique.
Niveau 4e.
Multiplication des relatifs en mode découvert.
Ok. Pour découvrir la multiplication, il faut d'abord revenir sur les additions.
Pour l'addition de relatifs, premier cas, première technique. Ils ont le même signe, additionnent leur valeur numérique.
On met le signe moins si les deux nombres sont négatifs.
On met le signe plus si ils sont positifs.
On passe au deuxième cas si les deux signes sont différents. Cette fois-ci, on prendra le signe le plus grand.
Bravo,
bravo. D'accord.
Voilà, c'est pas moi qu'il faut féliciter, oui. Ce sont les élèves.
Sauf que vous, vous êtes capable de rappeler le théorème de Pythagore, par exemple?
Oui, oui, on peut. On
bah,
peut...
Allez-y.
Alors, Pythagore, Pythagore ou trigonométrie?
Eh ben, trigonométrie.
Bah, après, faut dire quand même que je rappe pas devant mes élèves directement.
Non, mais là, vous avez rappé.
Je leur passe mes vidéos. Ouais. Il peut m'arriver à certains moments, en fait, de faire des. Par exemple, pour la trigonométrie. Le petit moment critique, choisir la formule pour ça. Il existe une phrase magique, casse-toi. Et c'est le petit moyen mnémotechnique, casse-toi, pour retrouver les formules de cosinus, sinus.
Et vous avez vu des progrès de certains, ou même une adhésion aux maths que vous n'avez pas vu, par exemple, en début d'année scolaire.
C'est pas la formule magique pour tout le monde, mais il y a certains élèves que ça peut raccrocher, oui.
Oui, ce que je voulais dire, c'est la méthode de Singapour. Si Singapour le décrit, va dire. Le monde appelle ce que nous faisons la méthode de Singapour. Ce que nous l'appelons, c'est des mathématiques cohérentes, bien construites, profondes, avec du sens. Et donc, je veux arriver à ce point, c'est le sens avant tout. On apprend des choses par cœur, souvent, avec des formules, mais on n'a pas le sens. Et l'esprit humain cherche à donner du sens. Du sens à sa vie, du sens à ses relations, du sens à sa profession.
Et ça peut être le rap, le sens, par exemple, pour vous? Quand vous l'entendez, quand vous voyez cette méthode-là, vous dites que ça peut être
alors,
une manière de,
du moment,
de donner un
je
sens.
Je suis sûre que mon collègue est un très bon prof et qu'il explique. Une fois qu'on comprend le pourquoi et le comment, alors on se rappelle avec des choses. Mais si au début, on apprend par cœur et on ne sait pas ce qu'on apprend par cœur, à un moment donné, ça nous intéresse plus.
Et Tchengiz, une question quand même. Vous évoquiez les différentes phases autour de l'enseignement et de la pédagogie des mathématiques. En 2019, il y a eu une réforme qui a rendu les maths optionnelles. Mmh. Oui. C'est une connerie?
Alors, même chose.
Au bac, enfin pour le bac.
On en parle, l'école primaire, le collège, le lycée, le supérieur.
Ben ça, c'est au lycée.
Au lycée, c'était une question différente. Donc, on ne va pas changer non plus le monde, le niveau des mathématiques en rajoutant une heure ou en supprimant une heure au lycée.
Mais il y a beaucoup d'élèves qui ont décroché, qui ont laissé, qui sont.
Oui, bon, on s'en fout. Oui, tout à fait, tout à fait.
Et vous le regrettez? Enfin, c'est dommage.
Je le regrette, bien sûr. On a des générations d'étudiants, d'élèves qui n'ont plus contact avec les mathématiques en terminale, par exemple. C'est dommage. Mais je voulais ajouter un truc par rapport à Singapour. C'est aussi le côté concret, les petites toupies, etc. Ça correspond à ce que je défends le plus souvent, c'est que les maths doivent être en contact avec la science, avec le concret, avec les autres sciences, avec la physique, avec la chimie, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, les professeurs, on parle essentiellement de l'école primaire, qui est, je crois, le point clé dans toutes ces questions. À l'école primaire, l'Académie des sciences le soutient en permanence. Il faut travailler l'interaction entre toutes les sciences. Il faut... Moi, je me souviens, je mesurais avec mon professeur à l'école primaire, on mesurait la cour de récréation et on calculait sa superficie. C'est des choses qui sont très, très concrètes. Voilà. Et pour mesurer la cour de récréation, il faut un mètre, il faut apprendre ce que c'est qu'un mètre, un décimètre. Et tout ça, ça fait partie d'une approche cohérente de la science.
Et globale.
Globale, voilà, tout à fait.
Voilà. Alors, vous parliez des mathématiques modernes tout à l'heure. Eh bien, regardez, c'est le sujet de notre archive.
Oh là là.
Des réformes. Donc, à propos des réformes, il y en a eu plusieurs. Il y a eu en 72, à la fin des années 60, et réaction des élèves dans une salle de classe en 1972.
Tout de suite, quand j'ai appris en 6e les mathématiques modernes, j'ai tout de suite aimé ça, j'en parlais à la maison, mais en 5e, quand ça revenait, je commençais à m'en lasser.
J'ai eu énormément de mal au début de la 6e, le premier trimestre, et mes parents m'ont poussé, et j'ai vraiment pris goût qu'à partir d'il y a un an, en 5e.
Et les parents, que peuvent-ils ?
Dans le primaire, quand on avait les mathématiques traditionnelles, quand on avait un ennui avec tel problème, on pouvait leur faire appel. Tandis que maintenant, on peut vraiment plus. Ils sont déroutés, ils sont comme nous au début de la 6e.
Antoine Carrier, c'est vrai que les parents se sentent souvent démunis aussi face aux mathématiques. Et quelque part aussi, ceux qui étaient bons en maths, ils étaient meilleurs en tout. Il y avait une forme de snobisme à être bon. Est-ce que ça ne rend pas aussi plus difficile encore cette incapacité des parents à aider leurs enfants?
C'est pas forcément une image positive qu'ils vont renvoyer des mathématiques.
Ça, vous le ressentez?
À leurs enfants, en fait. Oui, mon enfant est nul en maths, j'étais nul en maths, c'est normal. Ça, on l'a tous entendu.
Ah, vous pense. L'avez tous entendu,
oui,
ça, on l'a tant que prof.
C'est pas forcément une image positive qu'on renvoie, alors que ça n'a rien à voir.
Monica Neagoy, vous êtes franco-américaine. Est-ce que vous pensez que chez les Français, il y a une forme d'affectation, peuple littéraire, rablaisien, poétique, et que les sciences, tout ce qui est rationnel, non, c'est pas pour nous. Est-ce qu'il y a ça?
Non. Je pense que le monde s'est fait nombre il y a 100 ou 200 ans. Avant, oui, c'était les littéraires, c'était les poètes, et ceux qui travaillaient les chiffres étaient vers le bas. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un monde où les mathématiques, on est dans un monde technologique, et les mathématiques sont très valorisées. La raison pour laquelle on en parle tellement, parce qu'on est déçus que des enfants. Donc je pense qu'on apprécie la littérature, j'en suis la première, mais on apprécie et on veut que nos enfants réussissent en mathématiques. Mmh. Mais il faut qu'on trouve un autre moyen de leur donner du goût.
Je voudrais ajouter que ce déphasage entre les parents et les élèves était extrêmement bien montré dans le petit film qu'on a vu en 72. Parce qu'à cette époque, les mathématiques modernes étaient totalement déconnectées du mathématiques traditionnelles. Les parents n'y comprenaient rien. Mon prof n'y comprenait rien lui-même. Voilà. Et c'était l'une des grandes difficultés, c'est que les profs n'avaient pas été formés à cette réforme qui partait d'un bon principe, mais qui a été une catastrophe pédagogique.
Mais pourquoi, encore aujourd'hui, est-ce que quand on est bon à l'école, c'est qu'on est bon en maths? Mais pourquoi?
Parce que, justement, on a cette dichotomie d'être matheux ou littéraire. Et on pense que... Parce que les pays de l'Asie du Sud-Est qui réussissent, parce
comme
que le Japon, comme Singapour, comme le Japon, comme la Corée du Sud, la Chine, ils croient en ce que Carol Dweck appelle « growth mindset », l'état d'esprit de croissance. Si je travaille, si je fais des efforts, je réussis. Nous croyons que c'est à la naissance qu'on est soit bon, soit mauvais. Et cette étiquette de matheux ou de littéraire, c'est néfaste pour les enfants.
Et donc vous dites que c'est culturel?
Absolutely. J'allais parler d'une étude, je ne sais pas si Elisabeth me permet, une étude qui a été faite par les Français qui ont montré que toute configuration familiale, tout niveau d'école et tout territoire, rien n'affectait cette différence entre filles et garçons. Il ne reste que les stéréotypes de genre qui passent et qui affectent la pédagogie inconsciemment. Les profs ne s'en rendent pas compte, mais c'est des choses inconscientes qui passent.
Une dernière question, Étienne Gis. Il paraît qu'il y a des blagues de matheux et que c'est formidable pour donner le goût des maths, peut-être, du genre « Monsieur et Madame O ont une fille ». Comment s'appelle-t-elle? Pauline, parce que polynôme.
Très drôle.
Ça peut aider, c'est éventuellement,
très
mathématiques et
humour.
Oui, je crois
qu'il y a un livre qui s'appelle « Les blagues de mathématiciens », non?
Ça doit être
Oui, tout à
fait. Ça vient de là.
C'est là que vous l'avez lu?
Oui.
Voilà. Il y a un Premier ministre à Matignon qui connaît les mathématiques. Ça pourrait nous aider ou pas? Puisque tous ces pays dont vous nous parlez sont bons en maths, ils réussissent économiquement. Est-ce qu'il nous faut on cherche un Premier ministre. Mathématicien
à Matignon. Pour être un petit peu sérieux, on n'a pas beaucoup de scientifiques au sens large dans les hommes politiques.
Oui.
Ce qui était, c'était très différent au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y avait les plus grands mathématiciens, les plus grands physiciens, étaient des acteurs majeurs de la vie politique. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Donc, il faudrait opérer une révolution.
Faisons une révolution.
Et ce que vous dites, c'est que les mathématiques, ce n'est pas seulement le contenu qu'on apprend, mais c'est le raisonnement. Les mathématiques ont des raisonnements subtils et une beauté que à laquelle nous ne goûtons pas.
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Un Premier
ministre... Vous corroborez
Oui, bien sûr.
Oui, on est d'accord.
Un Premier ministre à Matignon qui augmenterait peut-être le budget de l'éducation nationale, ça pourrait être intéressant.
Eh bien, non, voilà.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est vraiment... en France, on est quand même un pays où on préconise le passage systématique en classe supérieure, il n'y a plus beaucoup de redoublements. Et les mathématiques, quand on loupe une marche, ça se répercute vraiment sur la suite de notre carrière de mathématicien, en fait. C'est propre à la matière. En français, on peut peut-être... un peu mieux se débrouiller si on a loupé une marche à rattraper les... Mais en maths, c'est très dur. On n'a pas compris les additions, les soustractions, ça va être dur. Les soustractions, on ne les a pas comprises, on n'aura pas... Les soustractions, addition, soustraction de nombres relatifs, on n'y arrivera pas. Il y a le calcul littéral, addition de nombres en écriture.
Arrêtez, on a le vertige.
On loupe une marche, et c'est dur. Donc,
merci infiniment à tous les trois d'avoir débattu autour des mathématiques et des Français.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.